Et bonjour à tous. Alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté jeudi soir prévoit un volet de lutte contre la fraude sociale, eh bien nous allons voir qu'à l'inverse, ce sont près de 30% des personnes qui pourraient prétendre à des allocations en France qui ne les réclament pas, soit une économie qu'on peut estimer à plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'État. Bonjour Marjolaine Corr.
Bonjour.
Le gouvernement souhaite donc simplifier le système pour réduire ce taux de non-recours. Mais on va voir que jusqu'à maintenant, ça n'a jamais marché. Et puis nous recevrons Marc Andevelde. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors que la Russie contrôle la centrale nucléaire de Zaporijjia et bombarde les centrales électriques ukrainiennes, vous soutenez qu'une des clés de cette guerre résiderait dans la politique nucléaire qui a été conduite par le président Zelensky. Vous allez nous expliquer ça et vous le développez dans un livre qui s'appelle « Guerre cachée ».
Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
Les minima sociaux, je souhaite pouvoir les revaloriser dès cet été, en même temps que de rendre le système beaucoup plus simple, c'est-à-dire de permettre un système de solidarité à la source, où toutes celles et ceux qui y ont droit les toucheront de manière beaucoup plus simple, ce qui permet à la fois de lutter contre la fraude et le non-recours.
Voilà, c'était Emmanuel Macron lors du débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Ce soir-là, il explique qu'il veut rendre automatique le versement des allocations pour éviter la fraude, dit-il, mais aussi pour éviter le non-recours. Et c'est en fait surtout cette deuxième partie de sa phrase qui nous a intrigués. On a cherché à comprendre ce qu'il entendait par non-recours et ce qu'on a trouvé est assez éloquent, vous allez le voir. Mais avant de nous faire part de vos découvertes, Marjolaine Corr, on va préciser les choses. Quand on parle de non-recours, on parle de quoi exactement ?
Eh bien, il existe toute une série d'aides qu'on peut être amené à solliciter un jour, comme les indemnités chômage auprès de Pôle emploi, l'APL pour son logement, la prime d'activité, l'allocation de rentrée scolaire, le RSA, le revenu de solidarité active, l'allocation handicapée ou encore ça peut être le chèque énergie. Bref, il existe une grande variété d'aides sociales.
Oui, il en existe une grande variété, sauf que dans les faits, une grande partie des gens qui pourraient y prétendre à ces aides, donc, ne les touche pas.
Effectivement, toutes les études qui ont été faites tendent vers un même chiffre. Un tiers des ayants droit ne demandent pas leurs allocations. C'est 34% pour le RSA et 37% pour les APL, par exemple.
Mais pourquoi des gens ne demandent pas des aides auxquelles ils ont droit ?
Alors, il y a différents types de situations. D'abord, certains ne connaissent pas l'existence de ces aides et il y en a d'autres qui craignent de passer pour des assistés. Mais la grande majorité explique que ça tient surtout à la complexité des démarches.
C'est-à-dire ?
Eh bien, parfois, on laisse tomber parce qu'on n'en peut plus. C'est le cas de Caroline Boudet, sa fille Louise qui a 7 ans est porteuse de la trisomie 21, donc elle s'est tournée vers la maison du handicap, qu'on appelle la MDPH, pour obtenir une allocation à laquelle elle avait droit. Dans un premier temps, ça a marché, mais après un vrai parcours du combattant, elle a dû remplir 6 dossiers de 20 pages.
C'est quelque chose de très chronophage, angoissant. Quand ces dossiers que nous, on a mis plusieurs heures à remplir, arrivent dans les MDPH, le temps de lecture du dossier, vu la masse qu'ils ont à traiter, est en moyenne 1 à 2 minutes. Donc, il ne faut pas se tromper. Moi, on m'a donné des petites techniques telles que stabiloter ce qui était important, enfin, tout pour leur faciliter le travail.
Et malgré ça, elle a eu des soucis ?
Oui, on lui a refusé une aide complémentaire à laquelle elle avait pourtant droit, pour compenser des frais matériels et des séances de psychomotricité pour sa fille. La famille a donc dû aller jusqu'au tribunal administratif pour obtenir gain de cause.
Et ça les a finalement découragés.
Oui, pour une autre aide, ils ont décidé de laisser tomber parce qu'un recours au tribunal, ça veut dire plus d'un an de démarche, là encore très complexe.
Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de niaque aussi, puisqu'après il faut faire un courrier au tribunal, etc. Il faut maîtriser les codes de l'administration. Ne serait-ce que comprendre un courrier. Moi-même, parfois les notifications MDPH, j'ai besoin de les relire 4 fois pour comprendre vraiment quel droit nous a été accordé ou pas. Mais voilà, que de temps, que d'énergie. Et on l'a fait par principe parce qu'on estime que c'est le droit de notre fille et qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller jusqu'au bout. Mais je comprends qu'il y ait tant et tant de gens qui renoncent face à la lourdeur de tout ça.
Oui, parce qu'elle, elle arrive encore à se débrouiller, hein, malgré tout, mais ça n'est pas le cas de tout le monde.
Non, imaginez la même situation avec une personne qui peut avoir du mal à écrire ou à s'exprimer. Dans ce cas-là, la tentation de tout lâcher devient très grande. Pascaline El-Khoury est bénévole au Secours catholique, elle aide des allocataires dans leur démarche et elle comprend pourquoi les gens se découragent.
On leur demande de parler avec un robot ou avec une plateforme téléphonique qui n'est pas très humanisante. C'est très très compliqué. Et puis il y a aussi le moment où on arrive au « je ne comprends pas ». Je suis passée par le téléphone, ça n'a pas fonctionné, j'ai finalement fini par obtenir un rendez-vous, ça a mis 3 semaines, 1 mois. Je suis allée à mon rendez-vous et on me dit encore non, et on me dit encore que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, alors que moi je sais que je l'ai fait. Et je me suis énervée et ils ne comprennent toujours pas. Donc, oui, quelquefois, ils se disent « ça suffit, j'arrête, je ne peux plus, je ne veux plus ».
Ouais, je ne veux plus demander ce à quoi j'ai pourtant droit. Mais sinon, c'est vraiment si compliqué que ça de remplir ces dossiers ?
Bien, apparemment, oui. Écoutez ce qu'a fait un ancien député socialiste, Michel Pouzol. Lui-même a été pauvre. Au début des années 2000, il est à la rue avec sa famille. Et quand il est élu en 2012, il décide d'aller faire prendre conscience de ce qu'est la bureaucratie à ceux qui conçoivent ces procédures. Il propose donc à des conseillers ministériels de se livrer à un petit exercice. Et voilà ce qu'il leur dit.
Vous allez prendre un dossier de demande de RSA, un dossier de demande de logement social, un dossier de CMU complémentaire, un dossier d'inscription à la NPE et un dossier de surendettement. Et vous allez essayer de les remplir. Et je peux déjà vous donner la conclusion, c'est si jamais vous trouvez quelqu'un qui est capable de le faire, vous pouvez commencer à faire vos bagages parce qu'il va prendre votre poste au ministère. Parce que c'est un génie. Et ça les avait fait rire, mais pas tant que ça quand même. Et en fait, c'est ça, cette complexité qui fait que là où on devrait faciliter les choses pour ceux qui sont le plus en difficulté, on a une tendance à les complexifier.
Mais pourtant, Marjolaine, il y a déjà eu des démarches de simplification qui ont été faites ces dernières années.
Oui, il y en a eu. Une première étape de simplification a eu lieu en 2009, lorsque le RMI et l'allocation parents isolés sont fusionnés et donnent naissance au RSA. Et puis la deuxième étape, ça a été la possibilité de faire ces démarches sur Internet, comme on le fait d'ailleurs presque tous désormais pour notre déclaration de revenus.
Ouais, sauf que parfois, à vouloir simplifier, on exclut une partie de la population.
Oui, parce que beaucoup de gens, des personnes âgées notamment, ne savent pas se débrouiller avec Internet. Mais surtout parce que cette évolution vers le tout numérique s'est accompagnée d'une diminution du nombre de guichets qui recevaient le public. Ce sont ainsi près de 10 à 13 millions de personnes qui se sont retrouvées sans interlocuteur, selon Daniel Agacinski, le délégué général à la médiation auprès de la Défenseure des droits.
Dans bien des cas, cette dématérialisation a été conçue en étant accompagnée de fermetures ou de réductions d'autres modalités d'accès. Ce qui fait que, d'une part, il y a des usagers pour lesquels on a une dégradation de la qualité de l'accès aux services publics, des gens qui étaient autonomes sous d'anciennes formes, qui ne le sont plus parce qu'elles ne sont pas autonomes avec l'outil numérique, soit qu'elles ne sont pas équipées, soit qu'elles ne sont pas connectées, soit qu'elles ne maîtrisent pas les usages, les techniques et les modalités d'usage de cette technologie-là. Et on a ce report de charge en se retrouvant à devoir effectuer un certain nombre de tâches que auparavant l'administration effectuait pour nous lorsque nous leur transmettions l'information au guichet, par courrier ou par téléphone.
Ouais, donc maintenant, c'est à chacun de se débrouiller.
Oui, d'autant plus que si vous êtes en galère, eh bien, vous ne pouvez plus, comme avant, vous présenter au guichet d'une administration sans rendez-vous. Et ces rendez-vous peuvent être programmés des semaines après que vous les ayez demandés.
Oui, puisqu'on a observé, Marjolaine, c'est que ce retrait des guichets au profit de bornes Internet, il s'est surtout effectué dans les campagnes. Et ça aussi, ça crée une fracture.
Oui, alors ça, c'est ce que Clara Deville, sociologue spécialiste des zones rurales, a constaté en étudiant les orientation prise par cette simplification.
Il y a un mouvement qui existe depuis longtemps dans l'implantation des agences administratives, qui est un retrait des territoires ruraux. Il y a un recentrement dans les pôles urbains qui a pu s'accroître en s'appuyant sur ces réformes de numérisation. Puisqu'on a accès à l'administration n'importe où, n'importe quand, il n'y a plus de rupture de services publics en milieu rural, puisqu'on peut avoir accès à une borne numérique qui est positionnée loin des pôles urbains, et que du coup, on dit, voilà, il y a un guichet qui est un ordinateur. On peut s'en aller de ces campagnes-là et du coup, recentrer les ressources humaines aussi des administrations dans les villes.
Oui, donc on a plus de chances de trouver un interlocuteur dans les villes. Mais si je suis à la campagne et que je ne sais pas me servir d'Internet, je fais comment ?
Eh bien, certaines communes ont trouvé une solution. Elles n'ont pas remis en place des guichets, mais elles ont créé des postes de coach en informatique, en quelque sorte.
C'est-à-dire ?
Eh bien, vous avez peut-être entendu parler des nouvelles agences France Service. Il y en a un peu plus de 2300 sur tout le territoire. Ce sont des lieux où vous trouvez des personnes qui vous aident dans vos démarches. Elles vous expliquent comment faire fonctionner la borne Internet qui vous relie à la CAF ou à Pôle emploi, par exemple.
Bah ça, c'est plutôt bien, non ?
Oui, sauf que d'abord, toutes les collectivités n'en créent pas. Et ensuite, comme l'explique Daniel Agacinski pour la Défenseur des droits, on vous apporte une aide essentiellement technique.
France Service, c'est formidable pour l'accès aux démarches, mais ce sont des agents d'accueil qui accompagnent les usagers sur les démarches numériques, qui ne sont pas des agents responsables du dossier. Et donc, la capacité à se sentir sujet de droit, à comprendre ce que l'on peut attendre d'une administration, ce qu'elle nous demande, ça demande du lien. Un lien qui peut, encore une fois, se faire par tous les modes de communication possibles et imaginables. On n'a rien contre le numérique. Simplement, ça suppose un lien avec des techniciens, des gens qui connaissent le détail des droits aux pensions de retraite, des prestations sociales, des prestations familiales, du fonctionnement de l'assurance maladie, de Pôle emploi. Et ça, c'est très exigeant.
Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'on a un taux de non-recours aussi important ?
Eh bien, en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'en dépit de toutes ces tentatives de simplification, les chiffres n'ont pas baissé. C'est le constat que fait Daniel Verger, le responsable études et recherches du Secours catholique. Avec l'Observatoire du non-recours en France, il a publié un rapport là-dessus il y a un an.
Dans nos rapports, nous ne constatons pas de baisse du non-recours. Au contraire, il y a même plutôt une hausse ces dernières années du non-recours. Donc le niveau du tiers de personnes qui ne reçoivent pas le RSA a plutôt tendance à augmenter. De même pour les allocations familiales, ce qui est assez paradoxal par rapport à la prise de conscience plus forte et que l'on voit aussi d'ailleurs au niveau du gouvernement, mais qui montre justement qu'il faut aller au-delà de la prise de conscience et vraiment maintenant enclencher des politiques actives de lutte contre le non-recours.
Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu combien certaines administrations peuvent constituer une jungle qui décourage de nombreux postulants aux aides sociales. Mais si ça touche près de 30% de ceux qui peuvent y prétendre, Marjolaine Corre, bah j'imagine que ça représente du coup des sommes très importantes qui sont de fait économisées par l'État.
Effectivement. Juste pour le RSA, cela représente 3 milliards d'euros par an d'économisés, selon l'adresse, la direction chargée de produire des études pour l'État. Le Secours catholique et l'Observatoire du non-recours en France, eux, évoquent même une fourchette de 3 à 5 milliards d'euros. Une fourchette parce qu'il est en fait très difficile de quantifier le nombre de personnes qui pourraient bénéficier du RSA.
Et pourquoi c'est difficile ?
Parce que beaucoup de gens passent à travers les mailles des filets, des chercheurs et des statisticiens. Selon Pierre Madec, qui est économiste à l'OFCE, on a du mal à établir une cartographie fiable du non-recours en France.
Les enquêtes sur lesquelles on travaille et les données sur lesquelles on travaille, c'est des données qui sont représentative d'une partie de la population seulement, c'est ce qu'on appelle les ménages en logement ordinaire. Typiquement, les personnes qui sont exclues du logement, les gens qui sont sans domicile fixe, les gens qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence, tous ces gens-là sont pas dans les enquêtes. Et puis, il y a aussi une problématique, par exemple, sur les jeunes ou sur les cohabitants, les gens qui vivent chez d'autres personnes. On a du mal potentiellement à les capter, donc c'est des estimations qui sont par nature fragiles.
Donc ça peut laisser penser que cette estimation de 30%, c'est en fait une estimation basse ?
De fait, oui. Et ce qui m'a été rapporté, c'est que Bercy se base sur ce taux pour éviter de gonfler certains de ses budgets.
C'est-à-dire ?
Alors j'ai un exemple à vous donner. En 2014, sous le mandat de François Hollande, le gouvernement a créé ce qu'on appelle la prime d'activité. C'est un complément destiné à tous ceux qui touchent moins de 1500 euros par mois. Le député socialiste Christophe Sirugue est alors missionné pour mettre en place cette prime. Il négocie avec Bercy et lorsque le dossier est bouclé, il en parle à l'ancien député Michel Pouzol.
Christophe Sirugue vient me voir un jour, il me dit « Michel, ça y est, on a gagné, on a créé la prime d'activité, ça y est, c'est créé ». Et il me dit « Oui, Bercy inscrit 5 milliards au budget ». Donc c'est pas une petite somme, hein, 5 milliards. Et là, je regarde, je dis « Mais attends, il me semble que si tout le monde y fait appel, c'est 10 milliards qu'il faut mettre sur la table ». Et il me dit « un peu gêné, je me souviens, oui, mais tu comprends, Bercy estime que c'est l'effort qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quand même mieux que rien. Donc là, on lance un dispositif absolument nécessaire pour ceux qui en ont besoin. Et on espère que la moitié de ceux qui y ont droit ne le demanderont pas. Donc c'est clairement faire de l'économie sur le dos des pauvres, clairement.
Ah oui, donc on intègre dans le financement d'une mesure un taux de non-recours.
Eh bien oui, puisqu'on budgète 5 milliards là où en théorie il en faudrait 10. Mais si ça peut paraître surprenant, en réalité c'est un grand classique. C'est en tout cas ce que m'a expliqué la sociologue Clara Deville.
Quand on fait une réforme, les dernières en date, la prime d'activité, ou même si on remonte à la réforme du RSA, il y a des simulations qui sont faites pour savoir combien ça va coûter, pour budgéter, en fait. Et donc, on projette la prestation en question en population générale avec un taux de non-recours qui est connu et qui fait partie du budget qui va être prévu pour l'allocation en question. Donc, les lignes budgétaires, les enveloppes budgétaires pour le RSA ou pour les autres prestations sont prévues avec des hypothèses de simulation qui comprennent des taux de non-recours.
Donc, en clair, depuis des années, on finance des aides en comptant sur le fait qu'un tiers des gens ne les réclameront pas.
C'est ça, parce que s'il n'y avait pas de non-recours, le budget des aides sociales de la France exploserait.
Et pourquoi il exploserait ?
Eh bien parce que selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, 33,5% du produit intérieur brut français est consacré aux dépenses de protection sociale. Ça représente au total une somme de 761 milliards d'euros. C'est donc colossal. Et si vous devez financer 30% d'allocataires en plus, vous explosez les compteurs.
Mais en même temps, Marjolaine, Emmanuel Macron, il a bien annoncé que le versement de ces aides allait être automatisé. Donc il devrait bien, de fait, faire baisser ce taux de non-recours.
Effectivement, il a parlé d'automatiser les versements et son ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, a un peu explicité ses propos début septembre dans une interview au Parisien. Mais ce qu'on en sait, c'est que ce ne sera pas vraiment une automatisation. Il ne faut pas s'attendre à avoir un RSA qui tombe sur votre compte sans en avoir fait la demande. C'est ce que m'a encore expliqué la sociologue Clara Deville.
Il y a toujours cette idée de, il faut que la personne qui a besoin d'un minima social fasse une démarche active de demande de droit. Démarche active, pourquoi ? Alors, pour respecter la vie privée, ça c'est le premier argument qui est adressé, mais moi, ce que j'y lis aussi, c'est qu'il faut qu'elle fasse la preuve de sa bonne volonté et qu'une démarche active de demande de droit, c'est aussi s'engager dans un parcours d'insertion, prouver qu'on est acteur pour résoudre ses difficultés, donc toutes ces choses-là où, du coup, on n'est pas un assisté. On entend ça, voilà, il faut que les gens soient actifs.
Mais actif, ça veut dire quoi précisément ?
Alors les employeurs déclareront automatiquement vos salaires sur une base de données centrale, mais en parallèle, vous devrez toujours remplir un formulaire de demande d'une prestation sociale. Et une fois que tout ça sera fait, chaque administration viendra piocher dans cette base de données pour savoir quelle aide elle doit vous verser.
Donc c'est quand même un progrès ?
Sur le papier, plutôt, oui. Maintenant, avant d'y arriver, il va falloir franchir pas mal d'étapes. Pierre Gravoin est l'un des auteurs du rapport sur le non-recours réalisé par le Secours catholique, et il pense qu'une automatisation des données ne pourra se faire que progressivement.
Déjà, il faudrait que toutes les données soient disponibles. Il faut d'abord avoir une interface claire entre les différentes administrations et aussi la possibilité de ces échanges. Des échanges qui posent des questions éthiques. Est-ce que les personnes concernées souhaitent que leurs informations personnelles soient partagées ? Des questions juridiques. Est-ce que la loi permet ce transfert d'informations ? Mais je pense que, en vue d'une automatisation qui demanderait une massification des échanges de données, il devrait y avoir un nouveau travail juridique à ce sujet-là. Et enfin, des questions techniques. Comment est-ce que l'État met en place une interface permettant un échange massif et fluide des données personnelles des individus ?
Et donc lui souhaite qu'on réfléchisse un peu avant de se lancer, ou en tout cas un peu plus avant de se lancer dans une méga base de données des aides sociales.
Oui, mais il y a pourtant des exemples qui donnent des résultats encourageants. En janvier 2021, il y a eu la réforme dite des APL en temps réel. Avant, les aides au logement étaient calculées par rapport à vos revenus d'il y a 2 ans. Maintenant, elles sont estimées en fonction de ce que vous avez gagné durant les 12 derniers mois. Donc il y a moins d'écart et c'est plus conforme à vos revenus.
Oui, seulement comme toute évolution, même positive, ce nouveau mode de calcul, il a provoqué quelques bugs.
Oui, et ça c'est ce que m'a encore expliqué Daniel Agacinski, qui travaille pour la Défenseure des Droits.
pour des raisons d'homonymie sans doute au départ, un foyer a vu ses APL rogner parce que dans la base ressources figuraient des revenus du travail issus de plusieurs entreprises pour lesquelles il n'avait jamais travaillé. Et en première instance, l'organisme leur a dit « Alors il faut que vous alliez voir l'entreprise pour qu'elle atteste que vous n'avez jamais travaillé pour eux ». Ils ont saisi le défenseur des droits, on a expliqué que c'était pas possible de fonctionner comme ça et qu'il fallait rectifier l'information dès lors qu'elle était corrigée par l'usager. Mais on voit la complexité dans laquelle ça peut mettre un usager dont les droits ont été mal calculés par la machine de rectifier.
Oui, effectivement, mais ce type de bug, Marjolaine, il reste marginal, non ?
Sans doute, hein, mais la crainte, c'est que plus vous automatisez, plus vous risquez de les multiplier, ces bugs. C'est pour cela que Daniel Agacinski espère que les administrations se donneront les moyens de les corriger avant qu'il ne fasse trop de dégâts.
Ce que l'on dit sur ces projets d'automatisation lorsqu'ils existent, c'est qu'il faut, de façon impérative, mettre en place des cellules de régularisation des erreurs humaines pour que, dans l'urgence, on puisse rectifier les informations erronées et en minimiser l'impact sur les droits des personnes. On le voit aujourd'hui avec l'APL. Si demain, ce sont l'ensemble des minima sociaux qui sont concernés par ce type de calcul et d'automatisation, ça peut mettre, en cas de bug, des foyers dans une extrême précarité, dans une extrême difficulté.
Donc lui, il appelle plutôt à la vigilance, mais en même temps, avec l'impôt à la source, ça avait plutôt bien marché, non ?
C'est vrai, mais les impôts, c'est une seule administration. Or, ici, vous avez toute une panoplie de prestations sociales qui dépendent d'organismes différents et qui devront réévaluer vos allocations chaque mois.
Ouais, donc effectivement, c'est un peu plus complexe, a priori, que pour nos impôts. Bon, maintenant, il y a un autre enjeu derrière cette affaire de simplification des aides sociales, Marjolaine, c'est de savoir qui va payer.
Oui, ça, c'est aussi un gros sujet, hein, car les départements craignent d'être les dindons de la farce dans l'histoire.
Alors, expliquez-nous pourquoi.
Parce que ce sont eux qui sont en charge du versement du RSA aux allocataires depuis 2009. À l'époque, l'État s'était engagé à verser une compensation. Or, selon l'Observatoire de l'action sociale des départements, l'État a bien compensé les départements à hauteur de 90% en 2009. Mais en 2015, cette compensation tombe à 61% et elle n'est plus que de 55% aujourd'hui. Du coup, Jean-Louis Sanchez, le président de l'ODAS, redoute qu'un versement automatisé du RSA fasse augmenter le nombre de bénéficiaires et donc exploser les budgets.
On est quand même face à un risque majeur. Si demain, on décidait de généraliser le versement automatique du RSA dans toute la France, de voir des départements incapables d'aller jusqu'au bout dans cette direction-là. Si on considère que le tiers des bénéficiaires potentiels demandaient demain le RSA, cela voudrait dire qu'il faudrait demander au département de financer 1,5 milliard de dépenses en plus sur le RSA. C'est une somme considérable.
Ouais, donc en clair, on explique qu'on ne peut pas verser l'intégralité des aides à ceux qui pourraient y prétendre.
Oui, mais c'est tout le paradoxe de cette affaire, hein. D'un côté, l'État explique qu'il veut réduire le taux de non-recours en automatisant les procédures, mais en même temps, il ne budgète pas ses aides à la hauteur de ce qu'elles devraient représenter. Et certains départements, vous l'entendez, sont donc très inquiets. C'est donc une équation dont les données semblent pour l'instant insolubles.
Ouais, entre l'intention et la réalité, il y a parfois un gouffre. Et pour l'instant, donc, hein, si j'ai bien compris, on modernise, on numérise, on automatise, mais sans résultat véritablement satisfaisant. Bien, merci Marjolaine Corr. Je précise que cette enquête, on peut la lire sous forme d'article sur franceinter.fr, mais on peut aussi la podcaster ou la télécharger sur l'appli Radio France. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On part en Ukraine. Marc Andevel, notre invité, va nous expliquer en quoi le nucléaire civil, et peut-être d'ailleurs militaire, est une des clés de compréhension essentielles de la guerre qui se déroule là-bas. Sold out on you. Sad, but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. You put me to hell. Got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole just ain't no way. No matter how hard I pray, there ain't nothing I can say that's gonna save us today. I'm sold out on you. It's sad, but it's true. De la soul viscérale à la fois classique et puissante qui balance entre voix de tête et voix rocailleuse, c'était Sold Out on You, dernier single du chanteur de la Louisiane, Robert Finley.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Marc Andevelde, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'en Ukraine, la Russie cible les centrales électriques et contrôle la centrale nucléaire de Zaporijjia, vous vous soutenez dans un livre intitulé « Guerre cachée » qu'une des clés de cette guerre réside dans la politique nucléaire qui a été conduite par Volodymyr Zelensky ces dernières années. Et vous vous appuyez sur l'histoire pour le démontrer. Vous expliquez que jusqu'à il y a peu, l'Ukraine c'était un peu le jardin nucléaire de la Russie. C'était une sorte de chasse gardée à laquelle il ne fallait pas toucher.
Oui, alors l'Ukraine fait partie des pays les plus nucléarisés du monde au niveau des réacteurs civils, des réacteurs nucléaires. Il y en a 15 sur le territoire.
15 qui sont tous de conception soviétique.
15 qui sont tous de conception soviétique, tout à fait, qui ont été construits dans les années 80 pour la plupart. Et effectivement, depuis l'indépendance de l'Ukraine au début des années 90, à la chute de l'Union soviétique, eh bien, toute la filière nucléaire ukrainienne était sous tutelle de la Russie. Tant au niveau de la fourniture en combustible que de la maintenance des centrales et des questions de sûreté, mais également la gestion des déchets. Donc l'ensemble du cycle nucléaire de l'industrie nucléaire civile ukrainienne était sous la tutelle, sous quasiment la direction ou la codirection de la Russie. Et ce qui s'est passé ces dernières années, et notamment depuis l'arrivée de Zelensky, mais les Ukrainiens avaient commencé à le faire notamment après 2014, c'est qu'ils ont eu la volonté d'échapper de plus en plus à la tutelle russes sur leur nucléaire civil, ce qui a rendu, on va dire, un peu compliqué leur relation
qui a
avec
irrité les Russes,
c'est particulièrement Vladimir Poutine et les Russes. Tout
c'est,
à fait.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce qu'il y a à la fois donc cette tutelle russe sur le parc nucléaire ukrainien, mais il y a en même temps Rosatom, qui est donc la société russe qui vend le nucléaire dans le monde, qui ces dernières années aussi damait le pion quelque part aux Américains, c'est-à-dire a été extrêmement implanté dans la région, mais même au-delà.
Il y a aujourd'hui 36 réacteurs de par le monde qui sont en train d'être construits par Rosatom. C'est l'entreprise nucléaire qui exporte le plus de réacteurs nucléaires dans le monde. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exportation de réacteurs nucléaires de par le monde, c'est l'un des objectifs majeurs de Vladimir Poutine. C'est une de ses obsessions. Et effectivement, ces dernières années, c'est-à-dire depuis 20 ans, la Russie a tout à fait damé le pion aux Américains qui, depuis en fait les années 80, ça remonte à loin, avaient largement désinvesti le nucléaire civil, à la fois pour des raisons de sûreté et également sur une question de rentabilité économique, qui considéraient que le nucléaire civil n'était pas suffisamment rentable.
Sauf qu'en 2019, donc, Volodymyr Zelensky, il va lui se tourner vers les États-Unis, ce que vous expliquiez tout à l'heure, et du coup, on va voir arriver Westinghouse, qui est le bras armé des États-Unis en matière de nucléaire, peu à peu en Ukraine.
Tout à fait. Westinghouse, qui est avec General Electric, la deuxième ou plus grande firme américaine dans le nucléaire civil. Et effectivement, les Ukrainiens, pour échapper de plus en plus à la tutelle russe, se sont tournés vers les Américains. Et donc, de plus en plus, le combustible utilisé par les réacteurs nucléaires ukrainiens sont du combustible assemblé et fabriqué par la société américaine Westinghouse. Et donc, il y a eu une autonomisation de l'industrie nucléaire civile ukrainienne, et dont par exemple la centrale de Zaporijjia, dont on parle beaucoup depuis notamment cet été, 4 réacteurs sur 6 sont en fait fournis en combustible Westinghouse jusqu'à la prise de la centrale par les forces russes.
Et puis il y a un accord qui va mettre entre guillemets le feu aux poudres, c'est-à-dire août 2021, il y a cet accord de coopération qui est passé entre l'Ukraine et les États-Unis et qui prévoit la création d'une usine carrément de combustible nucléaire en Ukraine, à l'intérieur même de l'Ukraine, qui serait donc fabriquée par les Américains.
Tout à fait. Il y a effectivement un accord qui porte sur plus de 30 milliards de contrats avec 4 réacteurs construits, qui seraient construits dans les prochaines années par les Américains. Et puis, surtout, la construction d'une usine d'assemblage de combustible en Ukraine même. Et par ailleurs, ce qui s'est passé en 2021 à bas bruit, personne n'en a parlé, ou quasiment pas, par les spécialistes, c'est que les Ukrainiens ont également rompu leur lien avec les Russes concernant la gestion des déchets. Parce que jusqu'à présent, les déchets qui étaient produits par les centrales ukrainiennes étaient ensuite retournés, notamment en Russie et en Sibérie, et c'était les Russes qui s'en occupaient. Et ce contrat-là a été rompu par l'administration Zelensky, et ça fait partie, on va dire, du fossé béant qui s'est creusé
ouais,
de plus en plus sur la question du nucléaire, qui est une question sensible, comme on le sait, parce que c'est une technologie civile pour l'électricité, mais puis qui peut avoir des applications militaires.
Alors en même temps, un pays souverain a le droit de devenir autonome et de se tourner vers d'autres partenaires, hein, ça ne justifie absolument rien. Mais les experts que vous interrogez vous disent vendre des réacteurs américains à l'Ukraine, pour les Russes, c'est de la pure provocation.
Il est considéré par les acteurs du nucléaire civil que les Russes conservent, et notamment sur leur centrale soviétique, entre guillemets, une forme de légitimité, notamment en ce qui concerne la sûreté et la maintenance. Cela explique quelque chose de très important. Pourquoi le nucléaire et le nucléaire civil n'a pas été intégré aux sanctions internationales à l'encontre de la Russie? Parce que aujourd'hui, en Europe, tous les réacteurs d'origine soviétique VVER sont aujourd'hui principalement encore fournis en combustible russe. Pendant la guerre, c'est-à-dire il y a encore eu des transports de combustible russe vers la Tchéquie, par exemple, il y a quelques mois, en pleine guerre en Ukraine. Et donc, il ne suffira pas pour les Ukrainiens de se tourner aussi rapidement vers les Américains, notamment concernant les combustibles, parce que, par exemple, aujourd'hui, leurs 15 réacteurs, dont les 6 qui sont occupés actuellement par les Russes, eh bien, les pièces de rechange, les pièces détachées, sont encore aujourd'hui fournies par la Biélorussie. Alors, les Américains ont annoncé qu'ils avaient récupéré des pièces détachées sur le marché de l'occasion au niveau mondial, mais ça ne suffira pas.
Alors, c'est intéressant de voir justement ce qui se joue en coulisses et quels sont les enjeux énergétiques qui peuvent éclairer effectivement le déclenchement de cette guerre. Parce que c'est vrai que la grille de lecture, c'est plutôt la volonté expansionniste de Vladimir Poutine qui veut rétablir le grand empire soviétique. Mais est-ce que vous pensez que si l'Ukraine n'avait pas fait rentrer le loup, les États-Unis, sur le secteur nucléaire de l'Ukraine, il n'y aurait pas eu de guerre?
Ce qui est sûr, c'est que la question du nucléaire a été à la fois un objectif majeur dans la décision prise par Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. D'ailleurs, dès le 24 février, il se passe plusieurs choses. Les troupes aéroportées russes sautent et prennent position à Tchernobyl. Les troupes russes, très rapidement, dès le 4 mars, prennent possession de la centrale de Zaporijjia. Et les Russes voulaient prendre également la possession d'une autre centrale qui s'appelle Ukraine du Sud, un peu plus loin que Kherson. Et c'est pour ça que d'ailleurs les troupes russes sont allées jusqu'à Kherson. C'est qu'en réalité, leur troisième objectif, c'était de prendre une autre grosse centrale ukrainienne qui s'appelle Ukraine du Sud, qui est à 300 km de Kiev, où il y a 4 réacteurs. Et donc, effectivement, la vraie volonté de Vladimir Poutine, c'est également de l'expansionnisme, on pourrait le dire, parce que c'est la volonté de mettre un coup d'arrêt à la volonté de souveraineté énergétique de l'Ukraine. Mais derrière, comme on parle de nucléaire, il y a également la question sécuritaire. Et en fait, Vladimir Poutine voyait d'un très mauvais œil cette autonomisation de la filière nucléaire civile ukrainienne. Et ça, il faut le comprendre, les Ukrainiens, eux, depuis quelques années, ont considéré que la seule manière pour eux de préserver leur sécurité, c'était potentiellement de relancer un programme nucléaire. Alors, ils ne l'ont pas fait, mais le débat a été intense du côté des élites ukrainiennes. Il y a même eu des projets de loi pour faire de l'Ukraine un État nucléaire, au sens militaire du terme. Et donc, derrière la question de la maîtrise du nucléaire civil, se pose à terme
bien de l'émergence,
possible, ce qu'on appelle une puissance du seuil dans le nucléaire mondial.
Et c'était une des craintes de Vladimir Poutine, c'est ce qu'on entend. Bien, merci Marc Landevelf pour tous ces éclairages. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule « Guerre cachée » et je précise qu'il est édité au Seuil. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Loïc Frapsos et Thomas Langlin. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.